et bienveillants sont descendus accueillir toutes celles et ceux qui sont partis. Et votre fils n'était pas seul, loin de là. J'ai hésité, car ce n'est pas mon rôle de journaliste d'affirmer une telle chose. Pourtant, je n'ai pas effacé le texte. Mon intuition me soufflait que ces mots étaient justes et qu'ils pouvaient être entendus. Et puis, l'écrivain que je suis sait bien que lorsque l'on écrit, parfois d'autres prennent les commandes. Alors la lettre est partie, et les parents de Cédric et moi avons continué à correspondre. Je raconte à Agnès. Tout en écrivant, j'ai été pris d'une émotion incroyable. Je visualisais littéralement dans ma tête ces êtres de lumière au-dessus de Paris venant s'occuper de toutes les victimes. Je partage ton ressenti. Ces parents ne doivent pas s'inquiéter. Leurs enfants, toutes les victimes de ce soir-là, ont été prises en charge. Sur les catastrophes, les attentats, les lieux de massacre, des nuées d'êtres de lumière viennent enserrer dans leurs bras, consoler ceux que la mort emporte. Ils les aident à s'élever dans la douceur, afin qu'ils ne passent pas dans ces plans de révolte et d'injustice, ces espaces de perdition. Ça m'a toujours paru d'une justesse absolue. Ces êtres de lumière, qui sont-ils? C'est très varié. Il peut y avoir des défunts, les guides de la personne qui décède, ceux que l'on appelle les thérapeutes de lumière, des êtres spécialisés là-haut pour guérir les gens. Il y en a tellement. Sans parler de ceux qui viennent d'autres mondes, d'autres univers. Une nuit, je les ai vus. Chapitre 38. Nuit médiumnique. Jeudi 17 juillet 2014. Le vol 17 de la Malaysia Airlines, reliant Amsterdam à Kuala Lumpur, est abattu au-dessus de la région de Donetsk, en Ukraine. Aucun survivant. La nuit du vendredi 18 au samedi 19 juillet, je rêve. Je suis au milieu d'une grande plaine de campagne. L'herbe sèche, couchée, est jonchée de milliers d'objets. Je sais tout de suite où je me trouve. Sur le site où les débris de l'avion de la Malaysia sont éparpillés. Les corps aussi. Mais je ne vois aucune dépouille. À l'inverse, ce sont des êtres bien vivants que j'aperçois tout autour de moi. Des centaines de personnes debout, l'air erratique, dispersées sur un large périmètre sans paraître comprendre ce qui vient de leur arriver, des somnambules aux yeux écarquillés. Ils ne savent où aller et tournent la tête en tous sens, guettant de l'aide, une explication, un réconfort peut-être. Je les sens tellement perdus. Les passagers de l'appareil abattu. Ils sont plus d'une centaine, tous morts, et pourtant vivants et incrédules. Je suis présent au milieu d'eux, et je ne sais que faire car je réalise qu'ils ne me comprennent pas. Ils ne parlent quasiment tous que le néerlandais. Je me sens démuni, incapable de dire ou faire quoi que ce soit pour les guider vers la lumière, car telle est en définitive la tâche qui m'est demandée. Une immense confusion émane de ces centaines de personnes. La douleur est palpable, la stupeur les a figés sur place. Comme des marionnettes sans fil, abandonnées en état de choc. Cette vision est si douloureuse, je me sens si impuissant, alors qu'ils ont tant besoin de calme, de clarté, de simples mots apaisants. Alors, dans mon rêve, je me mets à prier. La seule chose qui me paraisse utile est à ma portée. Avec intensité, je demande à qui veut l'entendre que d'autres personnes plus à même que moi de savoir quoi faire en pareilles circonstances viennent s'occuper de ces âmes en peine à ma place. Sentiment puissant de réalité. D'une expérience linéaire. Je me réveille avec en tête la fraîcheur intacte du souvenir de ce rêve et le sentiment d'avoir été vraiment présent là-bas, sur cette terre de souffrance et d'obscurité. Une obscurité passagère, car bien vite, de l'aide a été apportée à celles et ceux qui en avaient tant besoin. Les passagers du vol 17 devant mes yeux intérieurs, ont été pris en charge. Les yeux de mon âme immortelle ont vu l'éclosion brutale de ces centaines d'âmes éternelles. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes jamais seuls, où que nous soyons, dans ce monde ou dans les autres, dans la vie comme dans la mort. Chapitre 39. Dans le ciel. Gustave a deux fils, Gildas, 35 ans, et Gaël, son cadet de 4 ans. Tous les deux pilotes de chasse sur Mirage 2005. Après 3 années passées à Taïwan, Gildas se trouve en Espagne, Albacete, depuis septembre 2013. Sa mission ne lui permet plus de voler comme avant, mais il organise les vols des autres pilotes. En janvier 2015, un stage d'entraînement rassemble les meilleurs pilotes des 10 pays de l'OTAN venus participer à des exercices d'opération sur les terrains extérieurs en conflit. Avec un autre pilote de sa base de Luxeuil, Gaël s'y trouve également comme pilote accompagnant. Son rôle est de jouer l'ennemi lors de ses simulations grandeur nature à bord de son Mirage 2005. Le lundi 26 janvier 2015, dans l'après-midi, Gildas et ses collègues de la base de Los Llanos à Albacete ont prévu d'organiser un vol d'exercice. Des Alpha Jets de Caso sont prêts à y participer. Gildas, dont la mission le cloue au sol, veut profiter de la présence des Alpha Jets pour se faire le petit plaisir d'un vol en tant que passager en place arrière, sachant que le pilote en titre lui laissera bien volontiers le manche durant l'exercice. Gildas, dont le surnom est Mike, est un pilote exceptionnel qui donne bien du fil à retordre aux pilotes de haut niveau. Dans la famille, l'aviation est une passion. Gustave, le papa, vole lui-même depuis une vingtaine d'années. Vers 15 heures, Gildas est déjà sur le parking près de l'avion, trop impatient de voler. Il grimpe sur l'appareil et pose les pieds sur la bouche d'entrée d'air du moteur gauche de l'Alpha Jet. Penché sur le siège arrière, il prépare son poste de pilotage. Gaël, son jeune frère, compte le rejoindre pour assister au décollage, mais il a volé le matin et son collègue de Luxeuil le retient quelques minutes dans les bureaux pour finaliser un rapport. Il ignore que cela va lui sauver la vie. À 15h16 précise, un F-16 de la force aérienne grecque décolle avec toute la puissance de la post-combustion. Mais soudain, il vire et bascule sur l'aile droite en dérapage. Tout va très vite. Le pilote grec, surpris et totalement dépassé, s'accroche à son manche gauche arrière, ce qui conduit inexorablement au crash. 7 secondes s'écoulent entre le décollage des roues et le toucher de l'aile droite au sol. Un quart de seconde avant, les deux pilotes grecs se sont éjectés, mais se tuent au sol. Après un premier embrasement, la carcasse du F-16 glisse et dévaste le parking où sont stationnés les autres avions en attente. L'horreur. Le F-16 entraîne un Mirage 2000D où un pilote français et sa navigatrice de grande expérience ont pris place. Puis tous les mécaniciens, armuriers, pistards sont avalés dans un enfer de feu inimaginable. En moins de 2 secondes, le monstre de feu s'est étiré dans un hurlement métallique sur 200 mètres de long, avant de terminer sa course sur l'Alpha Jet de Gildas. 40 000 litres de carburant toxique, contre lesquels les services d'incendie et de secours vont lutter pendant plus d'une heure. Le corps de Gildas est retrouvé devant le nez du squelette de son avion, près du moteur du F-16. 44 personnes ont été touchées, plus ou moins gravement. 11 morts, dont les deux pilotes grecs de 35 et 32 ans, et 9 aviateurs français tués sur le coup, sans qu'ils aient probablement compris ce qui leur arrivait. Un peu plus d'un an après le drame, je reçois une longue lettre de Gustave. Cette lettre me touche énormément. Ce message s'adresse à moi, mais aussi à Gildas. Les mots d'un père pour son fils, unis par-delà la mort. Des mots d'amour, de tristesse et d'espérance. Perdre son fils au plus fort de sa forme physique et mentale, dans le plus improbable des accidents, n'est pas acceptable. C'est insupportable pour un papa et une maman. Depuis cette mort, je serais devenu fou, halluciné, divaguant dans les cauchemars et les rêves surréalistes, si je n'avais pas découvert qu'il est possible d'envisager que la vie après la mort puisse être, comme vous l'écrivez, une hypothèse rationnelle. Car non, je ne suis pas fou. Je sens que mon enfant, qui n'est plus sur cette terre matérielle, qu'une pesée de quelques centaines de grammes de cendres, mon enfant établit avec moi secrètement et progressivement une nouvelle relation. Pourtant, je suis toujours aussi désespéré de ne plus serrer mon fils dans mes bras, de ne plus parler avec lui, comme je le faisais encore à Noël 2014, quelques semaines avant sa mort, de politique, de philosophie, de métaphysique, de nos aventures extraordinaires dans le désert, dans les airs, sur la mer, sous la mer. Nous étions si proches. Nous avions partagé tant de choses tous les deux. Plus jamais, il ne me dira, c'était mieux les petits vols de nuit. Ce furent ses derniers mots adressés par mail une dizaine de jours avant sa mort. « Viens, papa, viens voir les étoiles », m'avait-il dit le soir du 6 janvier 2015, juste après qu'il m'eût emmené faire un petit tour en avion dans la nuit noire, au-dessus de la côte de Dinard et Saint-Malo. Les lumières des petites villes côtières scintillaient. Les rares cumulus que nous surfions se coloraient des lueurs orangées des boulevards. Dans la voûte étoilée, Orion et la Lyre s'invitaient à notre bonheur. Au retour vers le terrain, perdu dans le noir de la campagne, trois petits coups d'alternate allumaient la piste comme par magie. Longues bandes de petites lumières blanches, vertes et rouges accueillant le petit avion. Seul au monde, nous étions dans notre appareil, maîtres de l'univers pour un instant féerique. Oui, c'était mieux les petits vols de nuit, mieux que ton absence infiniment cruelle. Mon cher Gildas, je n'ai pas pu trouver d'autre moyen pour calmer un peu ma douleur que de croire en toi, que de t'imaginer dans l'autre univers, celui des esprits, celui qui est tout près du mien, invisible mais si proche. Je te sens, tu me guides. Mon fils m'a guidé dès sa mort sur le chemin de ma spiritualité, moi, athée que j'étais. J'ai compris que spiritualité ne voulait pas dire religion. J'ai confiance en lui, comme j'avais totalement confiance en lui quand nous surfions sur les nuages au soleil couchant, avec le petit avion épousant les formes qui jaunissaient. Fortes émotions quand l'avion part sur l'aile ou pique du nez au-dessus de la mer, si bien maîtrisée. Oui, j'ai une confiance totale en toi. Je crois en toi. Mon cher Gildas, emmène-moi où tu veux. Je sais que jamais tu ne me trahiras. Tu étais la chair de ma chair. Jamais je n'aurais pu te mentir. Je te suivrai où tu me guideras. Gildas, savais-tu qu'en me quittant ce monde, tu m'ouvrais la voie des multiples sentiers qui me mènent à une vie plus riche, plus lumineuse, vers toi, mon fils ? Les inoubliables aventures que nous avons vécues tous les deux avec notre petit avion n'étaient que des échantillons d'avant-goût pour quand je te retrouverai enfin, non pas au terme de ma route de vie, mais au tout début d'une ineffable et fantastique autre aventure. Tu étais si heureux de piloter en place gauche celle du capitaine au-dessus de la Mauritanie. Le survol du désert était magique. Après quelques heures au milieu de nulle part, survolant les immensités d'une ère, l'arrivée à destination dans ce petit village perdu dans l'océan de dunes blanches, jaunes, rouges, au gré du soleil couchant. Sa mosquée de pierres blanches et noires, entourée de quelques maisons du même style. Toute la population du village accourait ou posait de l'avion, trop contente de voir un peu d'animation et espérant vendre quelques belles pièces de poterie millénaire trouvées dans les dunes. Le retour, survolant un interminable défilé de dunes ondulées et hostiles, a réveillé notre inquiétude. Mais le moteur de l'avion ne savait pas où il était. Nous n'avons pas décroché la panne fatidique qui nous aurait laissé sécher sur le sable brûlant, oublié du monde. Non, ce n'était pas ton heure, Gildas, ni la mienne. Mais quel bonheur d'apercevoir enfin, au loin, la mythique petite ville de Shingeti, envahie par le sable, étoile de l'Adrar. Elles me reviennent à l'esprit toutes nos aventures extraordinaires. Je vois ton sourire de grand bonheur quand tu étais aux commandes. Comme Mermoz, tu pilotais si facilement, si évidemment. C'était ta première nature. Tu avais le vol au bout des doigts. Tous les deux, nous avons fait la route de l'aéropostale de Dakar à Dinard en ce début juillet 2002. Étape de rêve au nom poétique. Saint-Louis du Sénégal, Nouakchott, Port-Étienne, Villa Cisneros, Layoun, Cap-Juby, où Saint-Exupéry fut chef d'escale, Marrakech, Tanger. Tu ne m'as jamais passé le manche au cours de ces deux jours de voyage. Ça t'était impossible. Tu as bien émis plus tard un petit mot de regret. J'aurais dû te laisser piloter. Non, je ne t'en veux pas. Je communiais tellement avec ton bonheur. Je suis heureux de t'avoir laissé ce cadeau. L'Espagne n'a pas senti les roues du VX. Tu voulais faire Tanger-Biarritz, mais les nuages épais accrochaient les montagnes du Pays Basque. En vol à vue, nous étions dans l'azur, mais le sol nous était caché. Et puis, il a bien fallu descendre. Tu as entamé une spirale vertigineuse dans l'épaisse couche blanche, nous ôtant tout espoir de repère visuel. Moi, j'étais perdu, désorienté. Mais toi, tu suivais tes instruments, les yeux rivés au tableau de bord. Tu leur faisais totalement confiance. Et j'avais une confiance absolue en toi, mon fils. C'était bien ton boulot, non? Et tu m'as offert soudain l'immensité du bleu profond de l'océan en sortant des nuages à moins de 1000 pieds plus bas. L'atterrissage sur la piste de Biarritz a ravivé notre bonheur. La dernière étape jusqu'à Dinard nous a permis de jouer avec les cumulus de beau temps le long de la côte dans la fin de journée allongée du début de l'été. Notre petit avion nous a donné des sensations très fortes à tous les deux, père et fils. Là, nous étions fusionnels. Disparu à 35 ans comme Mermoz, tu as eu une courte vie, mais tellement dense et passionnée. Ne me laisse pas seul sur ta plage. Reste avec moi. Reste en moi. Aide-moi. Gaël, ton frère continue à voler. Il est plein d'attention pour nous. Il est fort. Mais je crois que tu es parfois avec lui dans son mirage. Tu ne dois pas pouvoir t'en empêcher. Nous sommes très proches de ta femme et ton fils qui a presque 10 ans et te ressemble tellement. Lui aussi est fort. Il sait que son papa est dans les étoiles. C'est lui qui me console quand je te pleure. Il est habité par l'âme de son papa. Tu ne veux pas me laisser seul à me lamenter dans le néant. Pour que j'arrête de douter, de me demander où tu es, tu me fais comprendre que l'épais nuage de mon ignorance n'est pas un obstacle. Chapitre 40. Le sens des épreuves. Carole a 42 ans. Elle est fonctionnaire d'État et a connu différentes affectations, de la préfecture de police de Paris au ministère de l'Intérieur, en passant par l'Institut médico-légal. Toujours dans la haute administration, elle est aujourd'hui installée dans la région de Bordeaux. La mort est entrée très jeune dans sa vie. Elle avait en effet 12 ans lorsque son père a disparu. Ce décès a eu d'énormes conséquences sur son parcours, mais pas celles auxquelles on s'attendrait. Le témoignage de Carole nous confronte une nouvelle fois à une étrange énigme qui est revenue à tant de reprises dans ce livre. Le pressentiment que peuvent avoir certaines personnes de leur mort prochaine. Barthélemy, le père de Carole, va être foudroyé par un infarctus du myocarde à l'âge de 44 ans. Mais malgré le caractère absolument inattendu de son décès, il a fait des remarques insolites à plusieurs membres de sa famille juste avant sa mort. Environ un mois avant son infarctus, Barthélemy pose ainsi à sa fille une question bien singulière pour un jeune papa sportif et en pleine forme. Alors que Carole rêvasse, accoudée à la fenêtre de la terrasse, Barthélemy s'approche d'elle. « Ma chérie, si je décède, tu viendras me dire au revoir ?» Très surprise par des propos qui ne sont pas du tout dans les habitudes de son père, plutôt rassurants et prévenants d'ordinaire, Carole bafouille un évident « Mais bien sûr, papa, bien sûr !» Plus troublant encore. Trois semaines plus tard, alors que la famille est installée dans le camping où se terminent leurs vacances, Carole surprend une conversation entre ses parents. « J'ai l'intuition que quelque chose de grave va m'arriver », entend-elle son père dire à sa mère. « Mais non, écoute, arrête !» lui rétorque-t-elle. « Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je t'assure. Je sais ce qui m'attend », insiste-t-il. Que pressent Barthélemy ? Il appréhende, ses remarques en attestent, mais il ignore manifestement quoi. Et ni la mère de Carole, ni Carole elle-même, ne le questionnent plus avant, au moment où il fait ses remarques. Mais l'aurait-elle fait ? Que pouvait-il répondre ? Il y a fort à parier que lui-même n'en savait rien. Comment accorder avant de l'importance à une crainte inhabituelle ? Un pressentiment qui reste vague, même s'il laisse un goût inconfortable. Barthélemy peut-il consciemment se douter qu'il va mourir 3 jours plus tard ? Pourtant, il sent quelque chose, comme Léo, comme tant d'autres. Dans cette vie qui nous semble si réelle, nous sommes tellement aveugles, confus, coupés de cette dimension supérieure où se trouvent les réponses, le sens des événements qui demeurent si obscurs aux êtres de chair que nous sommes. Comment décrypter ces signaux physiques qui assaillent le corps et l'inconscient, le cœur, l'amour ? 3 jours après que Carole a surpris cet échange entre ses parents, Barthélemy s'effondre en pleine journée au milieu du camping. Le SAMU est immédiatement appelé, les urgentistes pratiquent plusieurs massages cardiaques, et dès qu'ils parviennent à peu près à le stabiliser, Barthélemy est transporté en urgence à l'hôpital, où il décède peu après. Sa femme appelle leur fille et lui apprend la nouvelle. Sous le choc, Carole est obsédée par le souvenir de cet étrange dialogue 1 mois auparavant. Elle interpelle immédiatement sa mère. Sa demande est sans appel. « Je veux voir papa, je lui ai promis. » Indescriptible douleur. Celle d'une jeune fille qui doit dire adieu à son père sans que rien ne lui ait permis de se préparer à une déchirure de cette ampleur. Commencent alors des années d'épreuves, de reconstruction. À 12 ans, Carole est violemment projetée dans l'âge adulte, une période dont le souvenir est terrible et qui, paradoxalement, soude le foyer. « J'ai une famille formidable », livre Carole aujourd'hui. En plus de sa sœur de 3 ans, son aînée, elle a un grand frère de 19 ans. « On s'est tous raccrochés les uns aux autres. Chez nous, c'est de l'amour à l'état pur. Que ce soit mon frère, ma sœur ou moi, on s'est investi dans les études. Notre priorité était que maman n'ait aucun souci avec nous. Donc, on bossait bien à l'école. On était gentil avec elle. » Elle a de la chance, votre maman. Oui, elle le dit d'ailleurs souvent. Si je n'avais pas eu mes enfants. Mais nous aussi, si on n'avait pas eu notre maman. Et puis, autre chose a coïncidé avec le décès de papa. À peine 1 mois après, j'ai commencé à avoir des visions. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Le décès de papa a été un tel choc qu'à partir de là, quelque chose a démarré et ne s'est jamais arrêté. Jamais. Je ne suis pas surpris par les propos de Carole. Dans son esprit, elle associe clairement à la mort de son père le début d'une ouverture de sa sensibilité. Comme si la brutalité psychique de l'événement avait en quelque sorte forcé les portes en elle, ouvert son 6e sens par un effet d'effraction émotionnelle. Les premières manifestations de cette singularité sont très identifiées, leurs souvenirs encore nets dans l'esprit de Carole. Soudain, presque du jour au lendemain, elle commence à savoir des choses à l'avance. D'abord, des petites choses, anodines, sans conséquences, comme si, peut-être, jugeant inconsciemment n'avoir pas été capable de prévenir la mort de son père, elle ne voulait plus désormais être prise au dépourvu et s'autoriser ainsi à ouvrir en grand ses outils perceptifs. Pour tout savoir avant et tout anticiper. Alors, une nouvelle aptitude entre dans la vie de Carole. Un outil qui s'active sans qu'elle le commande, ni même sache d'ailleurs bien comment il fonctionne. Elle ne provoque rien sciemment. Les détails lui viennent spontanément. Une info, une intuition, une idée, une sensation. Des choses majoritairement banales, mais des visions qui surgissent à répétition de plus en plus, au point qu'elle se sent un peu submergée, inquiète de sa santé mentale surtout. En quelques mois, Carole est devenue très mûre. Le drame l'a fait grandir d'un coup, mais confrontée au jaillissement de cette nouvelle sensibilité, elle s'interroge et s'en ouvre à sa mère. À l'époque, je suis tellement triste que je pense perdre la tête. Je me demande si je ne deviens pas folle. Je vois des choses qui se produisent ensuite. J'entends les pantoufles de papa le soir.